Bonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on reçoit Jesse Cabon. Jesse est un ancien coureur cycliste qui s'est recyclé dans l'endurance. L'année passée, il a participé à la RAF, la Race Across France. Et il s'est aussi lancé dans le coaching cette année. Avec lui, on va parler endurance, coaching, spécialement pour ceux qui n'ont pas nécessairement beaucoup de temps pour s'entraîner et faire du gros volume. Ça se peut que le nom de Jesse vous sonne une cloche, c'est parce qu'il a un podcast qui s'appelle On Jase Vélo. Si vous n'avez jamais écouté et que vous aimez la formule sur deux roues, je vous invite à aller l'écouter. Personnellement, j'adore. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts, bref, toutes les plateformes. Je vous invite fortement à vous abonner, nous donner 5 étoiles et partager le podcast si possible. D'épisode en épisode, on a de plus en plus d'auditeurs et ça me fait très chaud au cœur. Alors, merci beaucoup. La saison hiver 2024 est en train de prendre forme. On va voir quelques séries sur des sujets qui vous intéressent. Alors, ne manquez pas ça, abonnez-vous. Sans plus tarder, allons parler à Jesse. Et bienvenue sur le podcast. Ça fait drôle d'interviewer un autre podcasteur.
Ouais, un podcasteur à temps perdu.
ouais, ben moi aussi, c'est à temps perdu, mais c'est drôle parce que je vais t'avouer que moi, j'écoutais ton podcast avant de lancer le mien.
D'accord.
Puis, un moment donné, j'ai décidé que je faisais le petit train du Nord. Dans le fond, je partais de Montréal, j'allais jusqu'à Tremblant, puis je revenais jusqu'à Saint-Jérôme, où est-ce que ma copine allait me ramasser. Puis, tout le long, j'ai écouté ton podcast. C'était peut-être là, 2 ans. C'était vraiment, tu avais fait les premiers épisodes, ouais. Là. Puis, ouais. J'avais downloadé tous les épisodes et je les ai tous écoutés. Tu sais, Nadon, je me rappelle, puis c'est qui les autres? Nadon m'a marqué parce qu'il était particulièrement long, mais tout le temps intéressant. Tu sais, j'étais comme, genre, je pense que c'était 2 heures quasiment avec Nadon. Il y avait Henri Do.
Henri Do, il y avait Claude Binchet qui a vécu un petit peu à Montréal, mais qui a fait Paris, Montréal, non, Paris, Brest, Paris.
Oui, exact. Ouais. Ça, je l'avais écouté, puis je l'avais trouvé. Je me rappelais pas de son nom, mais je me rappelle de l'épisode Paris, Brest, Paris. Non, c'est ça, c'était vraiment intéressant. Puis ben, c'est ça, puis ça comblait le temps, là, parce que des fois, seul sur un vélo, spécialement sur le petit train du Nord, c'est le même décor pendant pratiquement 200 km. Ouais. C'est long, fait que non, c'est ça, j'avais vraiment aimé ça, puis j'avais aimé la formule, puis je trouvais ça intéressant, fait que c'est ce qui m'a un peu inspiré à lancer mon propre podcast.
Ah, ben moi, j'ai pas beaucoup d'auditeurs, mais j'ai inspiré quelques personnes, donc c'est bien.
Ben ouais, puis c'est ce qui compte ultimement.
Ouais, non, c'est ça, ouais, donc moi, je vise pas non plus d'avoir beaucoup de personnes, mais au moins, si je touche quelques personnes et que ça peut aider, inspirer et tout, je pense que c'est mission gagnée, là. Moi aussi, je cherche un petit peu toutes les sortes de podcasts de vélo et je suis bien curieux d'en écouter des nouveaux, là, j'adore ça.
Oui, puis je trouve, tu sais, là, on parle de créateur à créateur, mais je trouve que c'est difficile de trouver, tu sais, il y a deux types de contenu, là, selon moi, présentement. Il y a un peu le contenu vieillissant, là, tu sais, des personnes qui ont toujours fait le même type de contenu. Je n'aimerais pas de médias, mais tu sais, c'est comme, ils reprennent d'année en année le blueprint, puis ils refont le contenu, puis t'as, d'un autre côté, t'as tous les GCN de ce monde qui sont très... qui essaient juste d'aller chercher l'algorithme. Ouais. Je trouvais que ce que j'aimais, moi, du podcast, puis ce qui m'a inspiré de ton podcast, c'était vraiment que tu faisais qu'est-ce que t'aimais. Fait que, tu sais, ça venait me rejoindre parce que c'était pas dans le GCN mouvement, c'était pas juste voici 3 trucs pour que tu puisses mieux tuner ton dérailleur, tu sais, des affaires vraiment précises, tu sais, t'avais vraiment comme des histoires à raconter derrière, fait que c'était...
Ouais, c'est sûr que moi, niveau matériel, c'est pas la personne qui va parler le plus de ça, c'est pas quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je te dirais, sur le podcast, je me cherche encore et en fait, j'en écoute tellement avec des formules différentes et je trouve que c'est pas mon métier, là, je fais ça par loisir et c'est difficile de faire des interviews avec des personnes, très difficile. J'ai essayé aussi avec mon partenaire David où on essaie de se faire une routine à faire un podcast régulièrement, c'est pas évident. Et tu vois, en ce moment, je trouve ça bien facile et c'est ce que je suis en train de lancer et je vais essayer de me lancer une routine là-dessus, c'est faire des podcasts hebdomadaires où je vais juste parler de du processus d'entraînement semaine par semaine, quelle réflexion j'ai à chaque semaine sur l'entraînement et comment je peux donner ces conseils-là aux cyclistes. Je pense qu'ils se posent la même question, notamment là, avec la reprise du vélo en début de saison. Comment je planifie ma saison? Comment je commence ma saison? Est-ce que je me mets des objectifs? Est-ce que je commence à m'entraîner comme un malade ou pas? Et voilà, mais j'aimerais faire un petit peu de tout, mais évidemment, le temps me manque, hein. J'ai une vie professionnelle. J'aime ça faire du vélo plus que faire des podcasts. Et puis aussi, bah, j'ai la famille, les enfants, etc. Donc, il faut réussir à jongler tout ça. Mais j'aime vraiment le podcast et je prends du plaisir à le faire.
Ah, fantastique. Puis, ben dans le fond, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire, te présenter rapidement?
Ouais, bien sûr. Donc, bah, moi, c'est Jesse. Donc, un grand passionné de vélo. Je pense que la particularité que les gens me diraient, c'est que bah, je suis vraiment un passionné de vélo. C'est ce qui a guidé ma vie depuis tout petit. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. J'ai commencé par le BMX Race. Après, j'ai fait de la route. En fait, je fais du vélo de montagne. Vraiment, c'est vélo de montagne que j'ai fait le plus dans ma vie parce que moi, j'habitais dans les Alpes à Annecy. Donc, un spot magnifique pour faire du vélo de montagne. Et j'ai fait ça toute ma vie, que ce soit pas mal de cross-country, j'ai fait bah, aussi de l'enduro, de la descente, mais vraiment le cross-country en compétition avec des niveaux national, international un peu trop dur, hein. Moi j'étais avec les meilleurs Français qu'on a encore actuellement, et je peux te dire que même quand je faisais une course régionale, quand je finissais cinquième, j'étais le plus heureux du monde, c'est comme si j'avais gagné. Donc vraiment j'ai fait toutes ces pratiques-là. Et après, je suis allé vers la route où bah, j'étais en division nationale en France, donc très bon niveau, très difficile aussi, un des meilleurs niveaux amateurs. Mais voilà, j'ai toujours fait ça, toutes les pratiques, cyclocross aussi. Ça fait 10 ans que j'habite au Canada, à Montréal, et j'ai découvert bah, les critériums façon nord-américaine que j'ai vraiment trippé. Le gravel bike qui a aussi vraiment pris son envol les 10 dernières années, notamment en Amérique du Nord fortement et bien avant l'Europe, même si l'Europe a pas mal pris le pli aussi. Et vélo d'hiver que je fais actuellement, donc je commute. Vraiment maintenant le vélo, ça fait partie de mon lifestyle. Donc je me détermine comme un passionné de vélo. J'ai tout fait en vélo, j'ai fait toutes les pratiques à tous les âges différents. Donc en étant enfant, adolescent, étudiant et maintenant père de famille. Donc vraiment à toutes les étapes. Et à côté de ça, moi j'aime ça le sport de plein air. Donc bah, je viens des Alpes, donc j'ai toujours fait du ski alpin beaucoup, beaucoup. Et puis bah, tout ce qui a trait à des sports extérieurs. J'ai fait plusieurs marathons, courses à pied. Bien évidemment, ça s'imbrique bien avec le vélo pour pas être écœuré du vélo. Mais voilà, grosso modo. Et puis sinon, bah, je suis un papa de 2 enfants. Donc je pense que c'est important de le dire parce que ça fait partie de la réalité maintenant. Là, quand on continue à faire du sport et notamment du vélo qui prend du temps, bah, c'est pas facile. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir l'exprimer et dire, bah voilà, on est capable de faire du vélo et de s'entraîner, d'avoir des enfants et de travailler. Et ça peut peut-être en inspirer d'autres et aussi motiver les gens à se dire, oui, bah, c'est pas parce que j'ai une vie dynamique et remplie que je peux pas passer du temps pour moi aussi pour faire du sport. Donc voilà ma présentation, je pense, globale de moi-même.
Oui, puis c'est drôle parce que tu sais, toi, maintenant, tu as une offre de coaching, puis on pourra en parler plus tard, mais ça fait, je pense, 4 podcasts que je dis on peut s'entraîner plus intelligemment de nos jours. Tu sais, avant, c'était on doit faire 20 000 bornes par année pour être bon, puis aujourd'hui, on peut aller avec plus de qualité que de quantité, puis atteindre les mêmes sommets.
Ouais, exactement. C'est en plein ça, ouais. Donc, ouais, pour le coaching, c'est ça. Moi, j'essaye. On va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est vraiment de d'imbriquer bien la vie active par rapport à la vie sportive et vraiment bien la condenser ensemble où, j'ai l'impression un peu dans le marché actuellement là, du coaching et aussi de la manière dont on doit s'entraîner. Ça reste toujours inspiré des professionnels, on veut faire la même chose, mais il faut se dire qu'on est des amateurs et que nous, on ne vit pas pour ça. On ne se lève pas le matin pour aller s'entraîner pour préparer un objectif. On a une vie active et il faut réussir à concilier les deux. Et j'ai l'impression qu'il faut trouver le juste milieu entre les deux et pas prendre pour acquis que si ça marche pour les meilleurs, pour être le meilleur, ça marche aussi pour nous. Là.
Non, c'est 100% vrai. Puis je pense qu'en 2023, tu sais, en plus, tu as une vie active déjà, puis tu étais déjà, je dirais, tu faisais des courses, etc. Mais tu as pris une tangente ultra cycliste, c'est ça?
Exactement. Donc oui, en fait, ça fait longtemps que je me posais la question de faire de l'ultracyclisme et tout. Ça m'interrogeait, mais évidemment, comme tout le monde, je pense que c'est la distance, les dénivelés invraisemblables et tout qui faisait peur. Mais en même temps, je pense que il y en a beaucoup qui le vivent au quotidien. Je roule pas assez ou je m'entraîne pas assez par rapport à mes envies. Donc je suis un peu frustré au quotidien de me dire ah, j'aimerais ça rouler 10 heures, 15 heures par semaine et puis avoir le temps d'aller faire des grosses rides les fins de semaine, mais c'est pas le cas. Et je trouvais que ça, en fait, c'est l'ultracyclisme, ça permettait de vivre des micro-aventures où bah, pendant 2-3 jours, tu es dedans et puis tu vis ça à 100% et tu le planifies avec ta famille, mais ça te prend beaucoup moins de temps et finalement t'en as tellement fait que t'as besoin de récupération et puis bah au pire si t'entraînes moins après c'est pas grave et je trouvais que ça c'était une belle découverte pour moi et ça a encore renforcé beaucoup plus quand je l'ai vécu donc ouais c'était une belle découverte donc en fait pour l'anecdote je voulais m'inscrire en fait mon but ultime c'était de faire le Tour Divide. Tu connais le Tour Divide, là tu pars de Banff, donc au Canada, et puis tu traverses les rocheuses en fait sur une trail qui s'appelle Tour Divide Mountain Trail, et tu arrives aux frontières du Mexique, vraiment tout au sud. Donc c'est plus de 4 500 km, je pense c'est à peu près 4 500 km de gravel engagé là, donc ça prend même plus un vélo de montagne. Donc ça c'était mon objectif ultime. Et bah, étant français et puis attaché aussi à mon pays, il y avait une belle course qui s'appelle la Race Across France. Et je me dis, ce serait pas mal pour commencer de faire ça, de traverser la France en moins de 10 jours. Et en fait, je me suis inscrit à ma première course de cyclisme ultra-distance, donc avec la Race Across France, 2 500 km. Donc j'ai commencé direct par le truc le plus difficile. Mais au moins, bah, il fallait que je me prépare comme il faut. Avant, donc c'était une grosse année 2023 de préparation qui a commencé en réalité un an avant, là en 2022, où je me suis préparé fortement sur cet objectif.
Puis, OK, pour ceux qui connaissent pas la Race Across France, est-ce que tu peux nous dire, mettons, la distance totale? Tu as dit 2 500 km,
Ouais.
puis c'est de combien de mètres de dénivelé?
Bah en fait, c'est une course de cyclisme ultra-distance qui change de parcours chaque année. Donc l'année dernière, on avait une année très difficile là. C'était, je pense, en termes de dénivelé, c'était la plus grosse. On avait à peu près 40 000 mètres de dénivelé là. Donc c'est énorme là. C'est bien plus que ce qu'on fait au Tour de France là. C'est 10 000-15 000 mètres de dénivelé de plus là, facile. Et en fait, bah, nous, on partait du Touquet, donc vraiment au nord de la France, au bord de la mer, et on a traversé, on était rejoint de l'est de la France, on a traversé toute l'est de la France, donc tous les massifs montagneux, en fait, toute la frontière est de France, c'est que des montagnes, jusque dans le sud de la France, à Mandelieu, dans la Poule, donc à côté de Cannes, où il y a le festival de cinéma, donc on a traversé tout ça. Donc 2 500 km, 40 000 mètres de dénivelé. C'est en moins de 10 jours qu'il faut le faire et t'as pas d'assistance, donc personne ne peut t'aider sur le parcours. Par contre, tu as des bases de vie, donc tu as 4 bases de vie où tu peux t'arrêter. Il y a des lits de camp, tu peux te reposer, tu peux manger, tu peux te laver aussi des fois. Et puis, et aussi, tu peux avoir 2 drop bags pendant le parcours, donc qui peut te permettre d'avoir quelques petites des petits vêtements, des choses pour te dépanner entre la course. Donc voilà, et je trouvais que c'était une belle course parce que, bah évidemment, là, tu traverses un pays mythique avec des routes mythiques du Tour de France à tous les cols inimaginables. Hein, et c'était pour moi, c'était un bel objectif et puis ouais, une belle première course pour commencer dans l'ultra, là.
Puis, ça ressemble à quoi la planif d'un événement de même? Parce que tu sais, mettons le tu dis tu as 10 jours. Fait que, techniquement, est-ce que tu te dis chaque soir, je dois être rendu à telle place pour dormir ou tu roules jusqu'à l'épuisement? Comment ça fonctionne?
Bah moi en fait avec mon âme de compétiteur là, j'ai toujours fait du vélo en compétition, bah c'était évidemment de donner le meilleur de moi-même puis voir où est-ce que mon corps était capable de faire. Donc après t'as différentes stratégies, il y en a oui, ils planifiaient leur journée, ils disaient bah moi je roule que 2 jours et puis le soir bah il y en a qui prenaient, ils pouvaient prendre des hôtels ou ils prévoyaient s'arrêter à telle heure, repartir à telle heure. Moi c'était vraiment faire le plus rapidement possible. Alors comment je me suis planifié pour ça? Bah évidemment c'est se connaître soi-même et c'est ça qui est difficile quand tu fais beaucoup de compétitions, c'est avoir l'humilité de se dire bon bah tu rouleras pas à 30 km heure ou à 35 là, tu vas avoir des moments difficiles, il va falloir jongler avec ça et pas partir trop vite. Donc il y avait une épreuve, enfin pas une épreuve qualificative, mais pour te qualifier à cette course-là, il fallait avoir fait une course d'ultra-distance de 1000 km avant ou une grosse sortie de 1000 km de vélo en bikepacking. Donc moi, je n'avais jamais fait ça. Hein. Mon plus long que j'avais fait, c'était Montréal-Québec sur du plat, 300 km, that's it. Donc je me suis dit, bon, bah, va falloir que je me fasse quelque chose. Et en fait, mon objectif, c'était de faire le tour du lac Ontario, donc qui fait 1300 km. Donc je suis parti de chez moi à Terrebonne. Tour du lac Ontario jusqu'à bah, Niagara Falls, l'endroit le plus loin, et revenir chez moi. Fallait que je fasse cette course-là, enfin cette distance-là, avant fin mai pour valider mon inscription. Donc évidemment, j'allais pas faire ça fin mai, je l'ai fait un mois avant, donc fin avril. Pourquoi? Bah, au moins si je ratais, j'avais une autre tentative pour essayer, mais en même temps, fin avril, pour ceux
Audacieux.
qui se rappellent. Il y en a qui ont fait des courses sur route, je pense, à ce moment-là aussi, c'était les premières courses du Québec. C'était des trombes d'eau, des températures très froides et beaucoup de vent. Donc ben, je me suis lancé quand même. C'était plutôt difficile et ben, j'ai réussi à le faire avec quelques shortcuts. Là, j'ai traversé Toronto en train parce que je ne me voyais pas faire ça la nuit. C'est 70 km de ville à traverser où. Je savais pas trop où m'aventurer, même avec le GPS, on peut perdre beaucoup de temps. Et vu que je travaillais le mardi matin, ben, je voyais que j'étais short au niveau du temps et j'ai fait un shortcut aussi de à peu près une centaine de kilomètres en prenant un autobus. Donc, ce qui m'a fait une sortie de 1100 km. Donc, c'était parfait. J'étais qualifié pour faire ma course. Et voilà. Donc, ça, c'était ma grosse. Mon gros objectif pour me donner confiance avant la Race Cross France. Mais en fait, au niveau de la planification, c'est là où je dis j'ai une grosse préparation, je me suis bien préparé pour cette course-là. C'est pas tant d'entraînement, j'ai pas fait beaucoup plus d'heures que d'habitude. J'ai continué à faire mon entraînement habituel, voire même moins, parce que quand je me suis fait par exemple un tour du lac Ontario, évidemment, je me mets une récup derrière et elle est un petit peu plus longue que quand on fait une course classique où il n'y a quasiment pas de récupération. Mais c'est vraiment de la visualisation mentale, te dire bah, qu'est-ce que je vais affronter, me dire bah, je vais me taper des journées à faire beaucoup de dénivelé, je vais manquer de sommeil, donc jouer avec le sommeil, etc. Donc ça a été vraiment du travail mental qui a été très important et aussi tout le temps planifier le matériel. Moi évidemment, je voulais aller le plus rapidement possible, il y avait beaucoup de dénivelé, donc je voulais être le plus léger possible. Donc mon objectif c'était optimiser mon matériel pour être le plus léger en ayant l'essentiel, en sachant qu'en bikepacking, souvent tu portes tes peurs. Donc, si tu es très chargé, c'est que tu as plein de craintes et tu vas avoir 5 lumières, je ne sais pas combien de couches pour telle et telle météo. Moi, j'ai réussi à avoir le plus petit possible où, en fait, au début, j'avais beaucoup de bagages et au fur et à mesure que je roulais avec mes vélos, que je me suis fait de l'entraînement. Un peu plus de soir, quand il fait froid, etc. Quand j'ai fait mon tour du lac Ontario, finalement, j'ai allégé de plus en plus. Et j'ai fini avec une sacoche à l'arrière qui faisait juste 6 litres où j'avais principalement mes vêtements, mes différentes couches. J'avais une sacoche au milieu du cadre, vraiment petite, où j'avais juste de l'alimentation, de l'électronique, et puis mon passeport, mes papiers, etc. Et puis une petite sacoche en avant avec de quoi réparer, mais j'avais vraiment le strict minimum, donc je me suis bien préparé au niveau du matériel comme ça. Après, tester l'éclairage, parce que pareil, rouler de nuit et tout, bah, pour être vraiment confiant à rouler la nuit, bah, qu'est-ce que tu vas essayer comme éclairage, l'autonomie, savoir dealer avec, etc. Donc ça, j'ai réussi à le trouver avec des lumières avant-arrière qui ont une très bonne autonomie, pas nécessairement les plus puissantes, mais qui peuvent éclairer vraiment longtemps. Et après, une bonne lampe frontale aussi qui va me permettre de surtout bien éclairer dans les descentes de col, là où est-ce que ça va un peu vite et que tu as besoin de voir partout. Tu n'utilises pas ça tout le temps parce que bah, tu veux économiser de la batterie. Mais voilà, donc il y avait vraiment cette préparation de matériel qui était importante et aussi connaître son corps. Donc je pense que là où est-ce que j'ai vraiment réussi à connaître plus mon corps, c'est quand j'ai fait le tour du lac Ontario, où là j'ai passé les 2 jours de vélo intense et j'ai passé mon premier. Je voulais faire un 24 heures, donc j'ai fait 600 km, 500 km en 24 heures, mais je ne trouvais pas ça suffisant parce que je me dis. Faire une course comme ça, à faire en 10 jours max, bah oui, faire en 24 heures, tu es capable de le faire, mais ça va être un moment difficile. Mais qu'est-ce que c'est après le 24 heures? Comment tu vas rouler? Comment ta santé elle va être? Est-ce que tu vas être raqué, tu vas avoir mal aux jambes ou c'est une fatigue générale, etc. Et en fait, c'est ça que je voulais explorer en faisant le tour du lac Ontario aussi, puis ça m'a donné des belles réponses là. Donc ça a été plutôt intéressant là-dessus. Donc vraiment la préparation, elle était vraiment plus au niveau du matériel, de la gestion du sommeil, de la visualisation de la course. Mais après au niveau de l'entraînement, ça a été quand même l'entraînement classique, donc l'hiver du commuting, entraînement sur Zwift, des petits défis là, tu vois, comme le 300 km, non c'était quoi 300 km qu'il y avait à faire pour Opération Enfant Soleil sur Zwift, je l'ai fait, voilà. Avant ça j'avais commuté pour aller, j'avais fait ça dans un magasin, j'avais commuté avant, donc ça m'a fait une sortie de 400 km dans la journée. Voilà, des petits défis comme ça, mais vraiment avec l'entraînement classique. J'étais même prêt à faire des courses sur route pour me donner du rythme. Mais en fait, j'avais juste peur de me blesser, de me faire une clavicule ou quelque chose et de me dire, bon, bah, je rate ma grosse course pour ça. Mais je pense que ça aurait été vraiment bénéfique aussi pour me donner du rythme. Parce qu'évidemment, tu travailles beaucoup l'endurance, mais tu as besoin d'aller dans différentes intensités. Là. Quand tu montes d'école, tu n'es pas en zone 2 nécessairement à tout moment quand tu fais une course de bikepacking. Donc voilà, au niveau de la planification, c'est vraiment ça, de la visualisation, puis vraiment bien préparer le matériel qui va te mettre en confiance en fait. Si tu as déjà fait une longue distance et que tu es bien prêt au niveau du matériel et que tu es confiant, ben tu vas réussir à résoudre le maximum de problèmes que tu vas avoir et c'est sûr que tu en auras des problèmes et ça te permet de rester positif dans ton mindset, là.
Puis, côté équipement, moi, j'aurais quelques questions parce que j'ai fait l'année passée. Je pense pas que c'est loin d'être aussi intense que toi, là. J'ai traversé la Suède. C'était 650 km seulement, puis 6 000 mètres de dénivelé.
Bien,
Mais
ouais.
j'avais quelques questions pour toi. Est-ce que tu avais amené un bivouac ou un bivy-bag?
Non. Alors, comme je te dis, je suis allé vraiment minimaliste. Quand j'ai fait mon tour du lac Ontario, je suis parti avec absolument rien du tout. Je me suis testé là, j'avais des températures qui étaient aux alentours de zéro, même les nuits, j'avais du moins 5. Et j'avais bah, 2 couvertures de survie qui étaient obligatoires pour la course. Et en fait, j'avais mes vêtements de vélo classiques, donc base layer, maillot, jersey de vélo, les manchettes. J'avais un gilet sans manches. J'ai rajouté mon duvet sur moi. Et puis j'avais juste un cuissard avec des jambières, des petits coupe-chaussures là que tu mets sur le bout de tes pieds, des gants. Une cagoule pour avoir chaud sur la tête et that's it. Donc en fait ça c'était mon bivouac. Donc j'ai dormi à terre, j'ai dormi à terre avec ça, avec ma couverture de survie pour isoler. Mais vraiment dans ma tête c'était dormir le pas le moins possible, mais faire vraiment dormir ce que j'ai besoin et au pire me réveiller parce que j'ai un peu froid et puis je repars. Moi, c'est l'objectif. Et aussi, il y avait des bases de vue, il y avait des lits de camp. Et moi, je voulais optimiser ces endroits-là où, en fait, dès que j'arrivais là, bah, là, je dormais peut-être 4-5 heures. Je dormais plus. Par contre, quand je dormais dehors, je dormais 2 heures, 3 heures max. Et à un moment, je dormis 3 heures. J'étais vraiment étonné. J'ai très bien dormi. Mais voilà. Mais aussi, il y a beaucoup de d'humidité la nuit, le soir, et c'est très dur à dormir. Et même avec un sleeping bag et tout, je me suis aperçu que c'était pas évident. Donc, si t'es pas dans un endroit fermé, une pièce, t'as pas la meilleure qualité de sommeil. Donc, je préférais vraiment optimiser et être le minimum possible. Et finalement, ça a super bien été. Là, je suis vraiment content du matériel que j'ai eu pour le sommeil et tout. Là, j'aurais pas rajouté plus de vêtements, de sleeping bag et tout. Ça prend énormément de place. Et si tu veux faire ça rapidement, bah, c'est sûr que bah, tu portes ton poids et tu vas moins vite, tu es moins efficace là. Donc, non, j'ai trouvé ça très bien. Après, ça dépend vraiment de la météo et puis de comment tu vois ta course d'ultra. C'est sûr que ce n'est pas ultra confort. Par contre, pour pour de la performance, là, si tu veux aller vraiment le plus rapidement possible, je pense que c'est une bonne solution. Après, si tu veux le faire un peu plus tranquille, avoir un peu plus de confort, oui, ça te prend au moins un bivy avec un sac de couchage. Par contre, après, tu as toute la gestion du séchage derrière parce que, évidemment, l'humidité, ça s'emmagasine très, très vite. Et si tu veux pas être humide la nuit suivante, il va falloir que tu sèches, donc tu vas perdre un peu de temps aussi avec ça.
J'avais une stratégie un peu similaire, tu sais, pour la Suède où j'avais décidé d'apporter vraiment le strict minimum. Puis là-bas, il faisait comme clair 24 heures sur 24, donc pas besoin de lumière.
Ouais,
Fait que ça,
exact.
c'était un gros plus, mais c'est ça. Mais c'était une affaire qui m'avait marqué. C'était comment j'avais réussi à couper dans le poids, mais que suffisait d'une catastrophe pour que je sois à l'abandon, là. J'avais vraiment comme tout coupé. Puis je pense que
Ouais.
le vélo faisait, avec les sacs, les sacoches, 14 kilos.
Ouais.
Mais
OK.
toi, t'as-tu pesé ton, par curiosité,
Non,
ton.
j'ai pas
Non?
pesé. J'ai pas envie de peser en fait pour savoir si mon vélo est lourd ou pas assez. C'est, j'ai pris le matériel qu'il faut, j'ai le vélo qu'il faut
Ouais.
et je veux pas que ça me rentre dans la tête, me dire ah bah finalement mon vélo il est peut-être trop lourd parce que je suis dans des moments difficiles, je voulais vraiment faire
OK.
ça sans peser,
Moi,
ouais.
c'était surtout une question de curiosité, en fait, à ce moment-là. C'est pour ça que je l'avais pesé, mais puis est-ce que justement, tu sais, des fois tu te dis là, tu parles, tu sais, d'avoir des regrets pendant, mais est-ce que après ça, tu as eu des regrets dans ta stratégie ou la façon de planifier?
C'est pas des regrets, j'ai fait des erreurs, j'ai fait énormément d'erreurs parce que évidemment c'est ma première course d'ultra sur une distance qui n'est pas négligeable et un profil qui n'est pas négligeable non plus. J'ai fait des erreurs, je me suis cherché sur le sommeil. J'ai eu deux fois des hallucinations parce que j'ai poussé trop loin le manque de sommeil parce que à des moments donnés j'ai eu l'impression de trop dormir et finalement d'avoir perdu du temps sur la course. Donc après, j'ai fait des longs stretches où j'ai pas dormi, des nuits blanches, etc. Donc c'est assez dur de trouver le ratio entre dormir assez puis rouler assez vite quand tu dois rouler ou pas dormir, rouler plus lentement, mais perdre beaucoup de... En fait, tu perds beaucoup de temps aussi. Donc je me suis beaucoup cherché au niveau du sommeil, je te dirais. C'est là où est-ce que c'était le plus difficile à gérer avec vraiment des up and down. Niveau de la nutrition, ça a été très bien. J'ai pas ressenti ça de problème en termes de nutrition, mais c'est vraiment le sommeil et aussi, en fait, c'est parti très très vite. Moi, j'ai levé le pied un peu au début. Je suis pas parti aussi vite que les premiers, même si j'avais les capacités de le faire parce que c'était vraiment une découverte pour moi. Mais j'ai fait 600 km en 24 heures. Je pense ma première journée, ça a été. J'ai roulé pendant 30 heures d'affilée. J'ai fait 700 km, je pense, à peu près. Et j'étais très fatigué, en fait, à la fin de cette journée-là. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est normal, j'ai poussé. Et en fait, c'est ma fatigue sur laquelle je vais dealer jusqu'à la fin de la course. Et en fait, non, c'est que je manquais de sommeil. Si j'avais fait peut-être 1 heure de dodo, bah, j'aurais été beaucoup plus performant après parce que dans les journées qui ont suivi, quand j'ai bien dormi derrière, j'étais capable de rouler bien plus vite. Tu vois, j'étais peut-être quand j'étais fatigué, je roulais à 20 km heure et puis quand j'étais vraiment en pleine forme, je pouvais rouler à 25, 27 sur le plat là. Donc c'est vraiment impressionnant et je pense que le plus dur, c'est se connaître en termes de sommeil et savoir s'arrêter comme il faut. Mais vu que tu es dans une course, tu as un peu peur de perdre du temps, c'est un peu ça qui est dur là. Puis tu sais, des fois tu dors, t'entends des roulis passer, là, tu vois que c'est des coureurs, là tu te dis, oh, sais, tu dors mal parce que tu te dis bah peut-être que je perds du temps, il y en a trop qui me doublent, mais c'est hyper dur à gérer ça. Donc c'est pas des regrets, c'est vraiment une expérience. J'ai grandi de cette expérience-là et je pense que bah, je vais mieux gérer mes prochaines courses d'ultra. C'est un apprentissage.
Ouais. Puis moi j'avais une question de nutrition parce que j'ai t'sais, bon, c'est peut-être unique à la Suède parce qu'ils ont une alimentation différente de la nôtre, mais t'sais, en Suède, quelque chose que j'avais trouvé difficile, c'est que des fois, tu arrives dans un village, il y a un restaurant, c'est un hôtel historique, ils servent les menus traditionnels de la place. Puis t'sais, j'étais tombé sur un menu que je savais pas lire parce que je parle pas la langue, puis je m'étais ramassé avec saumon cuit à froid, puis je pensais que c'était du gravlax, mais c'était comme une espèce de pâte de saumon blanche avec de la mayonnaise d'œufs de poisson fermenté. Là, je me demandais, tu sais, qu'est-ce qui n'est pas optimal pour la nutrition de vélo? Fait que je me demandais, tu sais, toi, comment t'abordais la nutrition? T'as-tu tout traîné avec toi ou t'as mangé sur place, puis c'est quoi tu mangeais?
Non, en fait, au niveau de la nutrition, déjà, je ne l'ai pas dit en introduction, mais moi, je suis bon, végétalien. Je suis plus végétarien que végétalien maintenant. Là, ça va faire 6 ans. Donc, déjà, mon premier défi, c'était. Évidemment, tu ne trouves pas ce que tu veux quand tu vas manger quelque part. Et des fois, tu es obligé de faire des concessions. Moi, je m'étais dit, bah, s'il y a de la viande, j'en mange. Par contre, il fallait que je m'habitue. Je pense que le tour du lac Ontario, ça m'a bien habitué. Parce que quand tu passes aux États-Unis. Tu vois, au Burger King, au McDo, il n'y a rien de végétarien du tout. Donc, j'ai mangé des steaks et tout. Donc, voir déjà si je digérais bien des trucs que j'avais pas mangé depuis longtemps. Donc, voilà, ça, c'était déjà ma première crainte. Et je voyais que je digérais bien et tout. J'avais bien assimilé. Je te dirais que j'allais plus à la calorie. Donc, tu vois, pour mon tour du lac Ontario aussi, j'allais vraiment à la calorie. Donc, je me faisais un gros repas, même si après ton. Tu es en mode digestion, tu vas peut-être un peu moins vite, mais par contre, ça te donne vraiment de l'énergie par la suite. Et j'ai une bonne digestion, que ce soit du gras, du sucré, peu importe. Et en fait, comment j'ai fonctionné pour la course, je m'étais dit, il fallait que je fasse. En fait, la première base de vie a été au bout de 1000 km. Donc je m'étais dit, les premiers 1000 km, là, je roule le plus que je peux. J'essaie d'être le plus autonome en boisson et en nutrition. Donc. J'avais pris beaucoup de barres énergétiques. J'en ai mis beaucoup, j'en ai même mis dans mes drop bags, etc. Donc j'ai commencé avec ça. Évidemment, j'ai pris des sandwichs à les boulangeries, c'est fantastique en France, là. Donc j'avais un sandwich dans la poche quand j'ai fait le départ de la course avec plein de barres de céréales, etc. J'ai mangé mon sandwich et tout. Le matin, ça fait du bien une boulangerie. Donc, tu arrêtes à une boulangerie, tu bois un café et puis tu prends des petites pâtisseries, ça va bien. Puis en fait, j'arrivais plus à manger les barres. Les barres tendres, là, j'étais plus capable. C'est dur à mâcher, c'est trop sucré, ça tombe sur le cœur, etc. Et en fait, j'ai arrêté. J'en avais même que j'ai gardé, je les ai mis dans mes drug bags, j'ai même pas récupéré ceux qu'il y avait dans mes autres drug bags. Et en fait, j'ai fonctionné vraiment avec les épiceries et les boulangeries. Ma méthode, c'était de m'arrêter le moins possible. Donc moi, je m'arrêtais le matin pour le petit-déj. Je prenais à manger dans mes poches. Je me chargeais pour toute la journée. J'étais capable de rouler jusqu'au soir. Donc des fois, j'avais deux sandwichs dans la poche d'avance. J'avais plein d'affaires que je m'achetais, des pâtisseries et tout, mais vraiment de la bouffe solide, vraiment avec beaucoup de calories. Et jusqu'au soir, et le soir, je m'arrêtais, je me faisais un bon repas. Donc moi, je suis un fan de pizza, je me mangeais une pizza, je me remplissais les poches et je repartais pour rouler jusqu'à peut-être 2-3 heures du matin. Je dormais 2-3 heures et après, je repartais au lever du soleil. Donc c'était vraiment, je mangeais vraiment comme ça, j'avais quand même de la bonne bouffe solide, mais j'essayais de m'arrêter le moins possible et d'être autonome en bouffe. C'était ça. Puis après, au niveau de la boisson. J'avais beaucoup de petites capsules d'électrolytes. Ça, c'est le top parce que ça prend pas de place. Au début, j'étais avec de la poudre et tout. J'avais de la poudre pour mes drug bags et tout, pour remplir mes bidons quand je le pouvais. Mais sinon, c'était les pastilles. Quand moi, je mettais de l'eau, je mettais deux pastilles pour que ce soit bien chargé en électrolytes. Je tournais avec ça et puis sinon, c'était du coke tout le long. Du coke mélangé avec de l'eau quand j'avais plus de pastilles. Là, c'est sucré, il y a de la caféine et tout. Puis, pense que ça a été ma boisson que j'ai bu le plus, mais ça ressemblait vraiment à ça. Et je prenais vraiment de la bouffe que j'avais, tu vois, les barres de céréales, j'étais pas. Ça tombait sur le cœur. Puis la marque de barres de céréales que j'ai, là, je peux même plus la manger, là, ça tombe sur le cœur, je peux plus. Là. Donc j'ai pas trouvé. Au niveau de la nutrition, c'est sûr qu'il y a du travail. Mais ce qui est dur, c'est que tu peux planifier avant, mais pendant l'instant T, si t'es plus capable de les manger, de les absorber, c'est ça qui est difficile. Donc j'allais vraiment à la calorie, puis m'assurer de manger régulièrement, et puis de sentir que j'étais en énergie, puis vraiment t'hydrater. J'avais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de cimetières et tout, tu peux remplir de l'eau un peu partout, ou dans les montagnes, tu as des fontaines d'eau un peu partout, ça se faisait plutôt bien. Et tu vois, j'avais plus de misère, par exemple, autour du lac Ontario, où t'as pas toutes ces fontaines-là, t'es obligé d'aller dans un dépanneur, aller acheter à boire et tout. C'était un peu plus compliqué qu'en Europe pour ça. Mais ouais, la nutrition, c'est vraiment plus. L'idée, c'est au feeling de ce que j'avais envie de manger, avec des trucs le plus de calories possible. Et puis par contre, je me chargeais les poches pour être autonome le plus longtemps possible, en fait.
C'est cool. Puis, OK. Puis cette expérience-là, dans le fond, t'a amené à développer une stratégie de coaching ou parce que là, j'ai vu que tu t'étais lancé dans le coaching, puis je voyais que c'était, tu disais que c'était basé sur tes expériences.
Ouais, en fait, c'est pas nécessairement sur mon expérience d'ultra, mais moi, tu sais, je fais du vélo depuis, comme je te dis, depuis l'âge de 7 ans en compétition. J'ai vécu un petit peu toutes les étapes. Donc, au niveau de l'expérience, j'ai vécu que tu sois un jeune compétiteur, un père de famille, peu importe. Puis, dans n'importe quelle discipline, j'ai pratiqué tout ça. Puis, moi, tu sais, j'ai mon plus grand, là, il va avoir 7 ans. Il est vraiment passionné de vélo, puis maintenant j'ai vraiment envie de transmettre, et c'est vraiment ce que j'ai envie le plus que de performer moi-même, c'est vraiment transmettre aux autres mes connaissances. Tu vois, j'ai envie de commencer à coacher le monde, c'est pour ça que je propose en ligne là, ceux qui veulent du coaching. Je vais aussi coacher l'année prochaine en vélo de montagne au GEPAT, groupe plein air Terrebonne, les jeunes pour le vélo de montagne. Je vais sûrement encadrer aussi cet hiver là. La saison a commencé un peu plus tard, mais pour du fat bike. Mais j'ai vraiment envie de partager mon expérience du vélo et des sports d'endurance, hein, parce que c'est pas que le vélo, hein, tu sais, j'ai quand même fait d'autres sports d'endurance, mais vraiment partager ma passion et vraiment avec une méthode qui est un petit peu différente des autres sur le contenu où voilà, je suis pas nécessairement un gros fan de faire ton entraînement hyper scientifique avec calibrer des wattages, etc. et tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects que tu peux améliorer dans le vélo, que ce soit au niveau de la technique du cycliste avec des choses de base comme le pédalage. Au niveau des skills du cycliste, au niveau du mental, comment appréhender, comment bien se nourrir, et sans que ce soit une contrainte en fait d'aller s'entraîner, mais plus un plaisir. Moi, c'est ce qui m'a drivé toute ma vie là, en vélo, là, c'est vraiment de m'entraîner pour le plaisir. Et je suis capable de faire des entraînements beaucoup plus scientifiques, mais je pense que pour le commun des mortels, si on veut s'amuser et progresser en vélo, bah, il y a aussi l'aspect ludique qui est très très important là.
Ouais, comme tu disais, on n'est pas des pros, donc il faut avoir l'aspect ludique pour garder la passion.
Exactement, ouais, parce que tu vois, faire des entraînements hyper cadrés où ok, là faut que tu sois à tant de temps dans telle zone et tout, etc. Bah, peut-être que dans ta tête ça va pas, là tu as une grosse journée au travail, faut que tu ailles chercher tes enfants après, etc. Ça marche pas, mais comment tu peux combiner ça en faisant que dans ta semaine tu fasses un entraînement qui correspond à la trajectoire pour atteindre ton objectif? Et si c'est pas précis vraiment comme ça devrait l'être, comme un plan bien classique d'entraîneur cycliste, c'est pas grave, on va réussir quand même et on va mesurer les progressions, et puis on va être prêt le jour J. Et c'est ça qui est un peu que j'ai envie d'amener ça, parce que maintenant il y a beaucoup de. Avec les réseaux sociaux, ce travail, etc., il y a beaucoup de comparaisons sur les performances, etc. Moi, j'aimerais apporter ce truc un peu plus ludique où te compare pas, Focus-toi sur ton objectif, on va prendre du plaisir et en bout de ligne, bah, si tu es prêt le jour J et que tu as accompli ton objectif, bah, voilà, c'est mission accomplie pour tous, quoi.
OK. Puis là, je suis présentement, c'est sur ta plateforme
Ouais.
Nolio. Puis là, je vois que dans le fond, il y a un premier rendez-vous qui est offert, puis c'est un rendez-vous téléphonique. Qu'est-ce qui se passe dans ce rendez-vous
Ouais.
téléphonique-là?
Bah, déjà, en fait, tu vois, quand tu vas sur la page, ça reste un programme classique. Tu as différents forfaits, tu as des plans mensuels qui sont un peu plus suivis, d'autres un peu moins, dépendamment du tarif. Ça, il n'y a rien qui se démarque par rapport aux autres parce que c'est la base du coaching. Par contre, bah, bien évidemment, moi, j'ai mis bah, le premier rendez-vous offert. Donc, en fait, l'idée déjà, pour s'entraîner, je veux pas faire du quantitatif, mais vraiment du qualitatif et vraiment connaître la personne. Donc, tu vois, moi, un premier rendez-vous, c'est à peu près 30 minutes, un rendez-vous. Déjà, c'est faire connaissance avec la personne pour que le feeling passe parce que ça reste que du coaching, c'est une relation entre deux personnes et il faut que ça accroche et que la personne ait envie aussi que je la coach. Ensuite, c'est voir le passé sportif. Connaître, le plus important, c'est connaître le mode de vie de la personne. C'est quoi par rapport à tes contraintes? Parce que souvent, on est bien motivé, on va aller voir un coach, je veux faire tel objectif, je veux donner mon maximum et tout, mais en bout de ligne, si tu as des contraintes et que tu peux pas, c'est un peu difficile de jongler avec tout ça, bah, l'idée, c'est que moi, je m'adapte à toi, mais que je puisse connaître. Donc, bah, c'est quoi tes disponibilités réelles, pas ce que tu aimerais, mais tes disponibilités réelles par rapport à ta nutrition, où est-ce que tu en es, au niveau de ton sommeil, etc., au niveau de ton travail. Il y en a, ils travaillent en construction, on va pas leur demander de faire 10-15 heures de vélo parce qu'ils ont besoin aussi de récupérer de leur travail. Par contre, quelqu'un qui est en bureau, on va essayer de faire en sorte peut-être même de bouger un peu plus pour éviter d'avoir cette sédentarité-là et pas nécessairement seulement sur un vélo. Et ensuite, bah, pour moi, le plus important, c'est déterminer l'objectif le plus smart possible, donc qui soit réaliste et aussi qui donne envie. Parce qu'en fait, si tu veux atteindre un objectif, bah, il faut qu'il y ait quelque chose qui te donne envie et que tu fasses quelque chose pour toi et pas pour nécessairement les autres ou peu importe. C'est vraiment quelque chose qui te parle, qui va te faire lever le matin pour aller t'entraîner. Et après, on va pouvoir planifier tout ça au niveau au niveau du temps, au niveau du volume qu'on va donner, au niveau des exercices qu'on va faire, et vraiment combiner par rapport à la personne. Comme je dis, il faut vraiment s'adapter au type de personne. On a des jeunes qui vont avoir plus de temps, qui sont chez leurs parents, qui vont investir du temps là-dedans, qui sont aux études, qui vont avoir du temps pour s'entraîner. Là, on peut faire quelque chose de hyper cadré, hyper scientifique, etc. Puis après, bah, quelqu'un qui a une vie qui est beaucoup plus active, qui prend du temps, on va essayer de combiner le maximum et pas nécessairement juste avec du vélo, mais faire en sorte que bah, la marche que tu fais ou que tu fais pas, mais qu'il faudrait que tu fasses pour bouger un peu plus dans ta journée, on va la faire. Quand tu fais des choses, des activités avec tes enfants, oui, quand tu vas aller faire un commuting de 10 km et que tu vas aller chercher ton enfant à l'école, bah, ça compte. Si tu mets un capteur de puissance sur ton vélo de commuting, tu peux te rendre compte que tu es souvent au-dessus des 200 watts quand tu pousses sur ton vélo. Donc, faire en sorte que tout ça, en fait, on arrive à créer un programme avec ta vie active. Donc, ça, tu sais, moi, je parle la méthode sportif actif. L'idée, c'est bah, on n'est pas juste des cyclistes, on est des sportifs, on est actifs, on a une vie active et l'idée c'est de combiner tout ça pour faire en sorte qu'on fasse des programmes qui te parlent et pas nécessairement te dire bon bah aujourd'hui tu as 3 jours par semaine, il faut que tu fasses des séances sur Zwift calibrées, ça, puis c'est une contrainte parce que tu dois coucher tes enfants, tu dois dire à ta femme que tu vas aller t'entraîner, mais finalement tu passes pas du temps avec. Vraiment essayer de trouver en sorte. Faire en sorte que ça fonctionne. Tu vois, moi, par exemple, le temps que j'ai trouvé pour m'entraîner, c'est le commuting. J'ai laissé mon auto, on a une voiture familiale. J'ai pas le temps de m'entraîner, moi, la semaine. J'ai pas le temps de rentrer le soir à 18h et dire, ah bah là, je vais aller m'entraîner pendant 1 heure sur Zwift. Non, je veux passer du temps avec ma famille, je veux passer du temps de qualité, pouvoir les endormir, etc. Donc, du coup, bah, moi, c'est mon commuting, mon entraînement. Et dans mon commuting, bah, j'ai comme des programmes d'entraînement que je me fais, tu vois. Des fois, c'est juste ça. Et on peut être performant juste en commutant et pas nécessairement en se faisant que des cours sur Zwift ou des entraînements scientifiques. Donc vraiment, l'idée, c'est d'adapter l'entraînement par rapport à la personne et que ce soit le plus ludique possible et que ce soit un plaisir et que ce soit pas une contrainte. Moi, combien de fois, moi, j'ai vécu ça ou beaucoup de cyclistes ont vécu ça, dire oh, aujourd'hui, il faut que je m'entraîne, faut que je me fasse une séance. Puis tu sais, t'appréhendes la séance comme tu as peur de la faire parce que tu sais qu'elle va être difficile. Bah, l'idée, c'est que tu aies envie que tu sois motivé pour le faire. Donc vraiment, c'est ça que je vise sur mon coaching et m'adapter par rapport à la pratique. Donc, tu sais, j'ai fait du cyclocross, j'en fais toujours, du gravel, du fat bike, du vélo de montagne, du vélo de route, d'ultra distance. J'ai fait des marathons, des 10 km, des demi-marathons. Donc, je suis vraiment capable de guider sur ces différents sports-là. Et à tout âge, parce que j'ai vécu à peu près ces expériences-là dans à peu près toutes les âges. Donc voilà, c'est ça. Pourquoi je vais faire du coaching, c'est vraiment transmettre mes connaissances, là.
Non, mais c'est vraiment intéressant parce que j'avais jamais pensé au fait que, effectivement, tu sais, le commuting, ça rentre dans la forme générale. Puis si, moi, mettons, tu mets les efforts au bon moment, si tu peux. Pour être bien honnête, avec la pandémie, j'avais complètement arrêté de commuter. J'ai recommencé cette année parce qu'il faut que je sois au bureau comme aujourd'hui. Puis la réalité, c'est que j'avais. Effectivement, il y a des années que j'avais une super belle forme, mais pas beaucoup de kilomètres, juste parce que mon ancien travail était à 10 km de la maison, par exemple.
Mais
Fait que
je vais
ça fait
donner un
20 km par
exemple.
jour.
Je vais donner un exemple concret. Tu vois, la dernière fois que j'ai fait les mardis cyclistes de la Chine, c'était en 2017. Je venais d'avoir mon enfant. Voilà, ma priorité c'était passer du temps avec mon enfant. J'ai fait ma meilleure saison. Je finis 11e au général. J'ai fait nombreux top 10 dans cette course-là. Je finis l'année, je pense, j'ai fait à peine, je pense, j'ai fait à peine 8 000 km. Alors que, bon, les gars qui sont dans les top 10, top 20 de cette course-là, ils roulent quand même pas mal. Mon entraînement c'était faire du commuting. Rouler avec mon enfant dans le porte-bébé à l'arrière les fins de semaine. Je pense que j'ai dû faire deux sorties de 100 km dans l'année. Et voilà. Mon entraînement, ça se résumait à ça. Et j'ai quand même réussi à être performant au mardi cycliste de la Chine. Bon, après, j'ai un passif de cycliste, je me connais, etc. Mais j'étais pas le plus affûté, j'étais pas le plus entraîné. Par contre, j'essaie d'optimiser mes entraînements avec mon enfant et en allant au travail. Finalement, tu vois, j'ai réussi. Et l'année d'avant, je n'avais pas d'enfant. Et puis, je m'étais entraîné beaucoup plus. Et puis, j'avais des résultats qui étaient sensiblement pareils. Donc, j'ai réussi à vraiment garder mon niveau de forme avec la contrainte que j'avais. Je pense que ça, c'est un bel exemple, tu vois, de dire, voilà, bah, tu peux commuter et puis rouler avec ton enfant et puis être performant le jour J, quand tu dois faire des compétitions, un objectif, un défi, peu importe, juste améliorer sa forme, on peut toujours l'améliorer avec le temps qu'on a. Ça, je pense, c'est un bel exemple concret. Ouais.
Ouais, c'est exactement ce qu'on se disait plus tôt, c'est de travailler plus intelligemment, mais en qualité, non en quantité.
Ouais, exactement, ouais. Donc, c'est sûr que, veux pas, le volume, la quantité, elle est importante et elle est clé à la progression, mais malheureusement, si tu peux pas faire avec ça, bah, va falloir trouver des stratagèmes pour faire autre chose. Après, ça dépend aussi du type de course que tu veux faire. C'est un critérium, c'est des courses de 1 heure, c'est quand même assez court, donc c'est sûr que ça te prend beaucoup moins de volume, mais il y a quand même des stratégies pour aller chercher plus de volume sans que ça prenne du temps pour ta famille et puis ta vie perso et professionnelle. Donc, ouais.
Fantastique. Mais je pense que ça fait le tour de toutes les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Si jamais les gens veulent te retrouver parce qu'ils ont aimé l'entrevue, est-ce que tu où on peut te retrouver?
Oui, bien sûr, bah, je vais t'envoyer mes liens, tu pourras les mettre là dans le podcast, mais bah, principalement mon Instagram, là où je communique pas mal sur mes aventures à vélo, si vous voulez voir, ou aussi bah, par rapport au coaching, etc. Vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Je te partagerai aussi le lien de la course que j'ai fait en France,
Ouais.
et puis voilà, donc.
Ouais, puis pour les gens qui vont aller sur ton Instagram, tu sais, je vois qu'il y a un Linktree justement avec ton podcast, tes services de coaching, tes aventures sur YouTube. Et je suggère fortement la série de Reels. Moi, j'avais beaucoup aimé ta série de Reels sur la Race Across France.
Ouais, c'est ça.
Spécialement.
Pendant un mois, j'avais fait des reels pendant 30 jours, je pense, où je mettais des vidéos étape par étape de mes 7 jours de course, là, ouais.
Non, c'était une très bonne série. Moi, j'avais vraiment. Je les
Merci.
ai toutes regardées.
Merci, super.
Bon, ben, un gros merci pour ton temps. Puis,
Ouais.
ben, on se recroise sûrement sous peu. Sait-on jamais, on
Ouais.
finit toujours par se recroiser quelque part.
Merci pour l'invitation et puis bah on se reparle, on se revoit bientôt et puis bah bonne préparation de la saison sinon et puis have fun. Bye
Merci beaucoup, toi aussi. Bye.
bye, bonne
Bye.
journée.
Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner pour être certain de ne manquer aucun épisode. Et surtout, si vous connaissez des gens qui apprécient ce type de format, je vous invite à leur partager afin que l'on puisse être de plus en plus dans la communauté. N'hésitez pas non plus à m'écrire si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent. Comme je l'ai dit pendant le podcast, j'y vais beaucoup avec les sujets qui m'intéressent. Mais je suis toujours curieux de savoir ce qui vous intéresse afin de mieux adapter le contenu que je crée. Merci beaucoup. À bientôt.